Madame Fontaine, bonjour.
Bonjour Steve, ça va?
Oui, très bien. Mise à jour budgétaire.
Mise à jour budgétaire hier, une mise à jour qui avait des airs carrément de budget, hein, beaucoup d'annonces, ce qu'on attendait là, de l'aide pour des mesures fiscales pour les entreprises pour garder une certaine compétitivité par rapport aux États-Unis qui avaient largement diminué les impôts aux entreprises récemment. Un soutien au journalisme écrit, aux médias. Hein. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a trouvé une mesure qui s'adaptait à chacun des médias. Donc, on permet aux OBNL, comme la presse, d'être admissibles à la politique de don de bienfaisance. Donc, si on leur fait un don, on peut recevoir un reçu d'impôt.
Okay.
Et en contrepartie, un crédit d'impôt pour nous, pour les abonnements aux médias numériques. Donc, favoriser aussi ceux qui, plutôt, ont choisi le modèle de rendre l'accès à l'information payant pour ceux qui la lisent. On va avoir un certain soutien pour les clients de ces médias-là. Donc, quand même intéressant. Ce qui m'a préoccupé largement, évidemment, j'y reviens encore, j'en parle souvent, c'est la question du déficit.
Il n'y en a pas à Ottawa. Hein? Excuse-moi, là, ça n'existe pas, cette question-là. Tu es la seule à te poser la question, visiblement.
C'est hallucinant, mais épeurant. T'sais. Oui, on est à 18 milliards de déficit à la mise à jour budgétaire. C'est un peu moins que ce qui était prévu. Par contre, on augmentera de presque 2 milliards l'an prochain et les années subséquentes. Et en 2023-2024, hein, le directeur parlementaire du budget nous avait déjà dit il y a quelques semaines qu'il ne voyait pas de retour à l'équilibre budgétaire avant 2023-2024. Ben, hier, le ministre des Finances nous a confirmé que non seulement il n'y en aurait pas, mais qu'on serait encore à 11 milliards de déficit en 2023-2024. Puis tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se rappeler qu'en campagne électorale, en 2015, Justin Trudeau avait annoncé son intention de faire un déficit de pas plus de 10 milliards la première année et de revenir à l'équilibre budgétaire avant la prochaine campagne électorale, qui est dans un an. Alors tout ça, évidemment, ce sera un autre cible ratée pour le gouvernement de Justin Trudeau. Ce qui est vraiment inquiétant, à mon avis, c'est pas tant le fait de faire un déficit, mais c'est la position du ministre des Finances qui dit « on continue d'investir et de faire des déficits pour maintenir la croissance et pour maintenir le niveau de création d'emplois ». Hey, la croissance, là, c'est pas infini. Elle est tellement bonne, la croissance, maintenant, que la Banque du Canada a décidé d'augmenter les taux d'intérêt, justement, pour ralentir.
Mais ton point, c'est justement là, Isabelle Fontaine, moi, c'est là que ça me dérange un peu, c'est que effectivement la croissance, c'est pas infini, mais notre modèle a été bâti sur une théorie de croissance.
Exactement.
On ne peut pas avoir de croissance.
Puis, la croissance, elle est trop forte en ce moment. Le ralentissement, voire la récession, est à nos portes. Toutes les analystes le disent. Imaginons les coupures qu'il va falloir faire à partir du moment où l'économie va ralentir. Il y a plein de facteurs potentiels. Là.
Présentement, ça va bien. Imagine quand ça va mal aller. Puis l'autre affaire qui me chicote à tous les fois, je pensais pas réentendre. Puis j'ai entendu ça hier avec le ministre Morneau, la création d'emplois. Arrêtez votre création d'emploi, il y a de la job partout.
Il y a des pénuries de main-d'œuvre.
Ben voyons donc.
Ça frappe les entreprises de plein fouet et là, on parle encore de création d'emploi. Moi aussi, ça m'a beaucoup surpris. Puis,
il est sur quelle planète, lui?
Ça m'inquiète, exactement. Ça m'inquiète beaucoup, ça, ce niveau de déficit-là et cette candeur du ministre des Finances à l'égard d'un déficit aussi important.
Et t'sais, dans notre création d'emploi, là, revenons là-dessus quelques secondes, là, on peut-tu arrêter de parler de création d'emploi? Au pire, parlons de création d'emploi de qualité.
De qualité.
On est peut-être là dans notre transformation de pays. Là.
Exactement. Ou t'sais, avoir des travailleurs aussi mieux formés, capables de s'adapter aux changements technologiques qui vont si rapidement, capables de s'adapter aux innovations ou d'en créer de nouvelles, permettre à des employés de passer d'un secteur économique à un autre, tout ça, la mobilité des travailleurs d'un secteur à l'autre, ça va de pair avec l'éducation, mais la création d'emplois, j'ai trouvé ça, en tout cas, très, très préoccupant, cette mise à jour économique hier. Finalement, là, le gouvernement Trudeau va arriver à l'élection, il aura rempli deux engagements.
Le pote.
Celui de la marijuana, celui de l'allocation aux familles, là, qui était quand même une mesure très intéressante pour soutenir
l'allocation aux familles fonctionne bien, le pote, écoute. C'est à intensité variable à travers le pays, mais il y a des pénuries pas mal partout.
C'est ça. Mais en même temps, il n'y a pas la catastrophe annoncée en matière de sécurité publique et de consommation. Là, on n'a pas vu de...
Ben, là-dessus, il a gagné son pari, effectivement. C'est plus dans le déploiement qui relevait des provinces. T'sais, habile quand même, politicien qu'il est.
C'est ça.
Bon, vous laissez le trouble.
Exactement.
Ouais.
Sherbrooke... Le trouble inégal.
Exact. Sherbrooke adopte la Déclaration universelle d'urgence climatique. En gros, le conseil municipal a une résolution qui visait à reconnaître l'existence des changements climatiques. saluons les négationnistes au passage, et à demander au gouvernement du Québec et du Canada d'agir plus rapidement. C'est,
ouais,
pas, c'est pas grand-chose, mais on met un peu de pression.
Ben, c'est pas grand-chose. C'est un mouvement là, qui est né il y a quelques semaines. C'est un regroupement de groupes environnementaux qui disent qu'ils ont décidé de cibler les municipalités pour les inciter à reconnaître les changements climatiques, mais aussi le fait que c'est les municipalités qui se retrouvent avec les situations d'urgence créées par ça, tu sais, les inondations, les tempêtes de neige plus importantes comme on a eu la semaine dernière, tout ça. On leur demande de reconnaître la situation d'urgence puis de faire pression sur les autres paliers de gouvernement, mais aussi de s'adapter et d'agir. Puis tu sais, moi, je trouve ça très bien. Là, il y a la communauté, la CMM à Montréal qui l'a signé, la Ville de Montréal, Longueuil, Matane, Rimouski. Donc, un peu partout au Québec, le mouvement lève. C'est très bien. Maintenant, il faut agir aussi. Tu sais, il y a quelques semaines, Vincent Boutin nous annonçait qu'il adhérait à l'Alliance Ariane là, pour l'aménagement et l'urbanisme, qui vise aussi à avoir des aménagements plus durables, à augmenter la densité, à limiter l'étalement urbain, qui sont des moyens que les municipalités ont d'agir sur les changements climatiques. Puis c'est des moyens aussi qui sont économiquement intéressants parce que si tu as des quartiers plus denses, si tu limites l'étalement urbain, bien là, tes services sont moins coûteux, que ce soit la collecte des matières résiduelles, le déneigement, l'aqueduc, le transport en commun. C'est plus ton territoire est restreint et bien dense, plus ça devient rentable, ce genre, bien rentable.
Moi,
les dépenses sont importantes pour ces services-là.
En même temps, le problème, c'est que si la municipalité d'à côté, elle, y adhère pas, d'où l'importance d'avoir une espèce de règle uniforme. Parce que, tu sais, mettons, à Sherbrooke, là, on peut bien dire on va densifier la construction. Tu sais, moi, le premier, je dis, on peut-tu arrêter de déboiser partout? Puis on s'est étendu pas mal à Sherbrooke. Sauf qu'en même temps, tu regardes les municipalités d'à côté, et si elles n'y adhèrent pas, toi, comme citoyen, tu vas regarder ça, tu vas dire, « Hey, je paye moins de taxes, le terrain est plus grand. M'en va à côté. »
T'as tout à fait raison. Il faut que ce soit une certaine concertation régionale. Puis en même temps, ça demande du courage politique. Parce que là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est on essaie de faire en sorte que vous, individus, qui avez tendance à prendre ce genre de décision-là, moi, je prends ma décision pour moi, je vais aller un peu plus loin, utiliser davantage ma voiture, avoir plus d'espace, contribuer à l'étalement urbain. Mais il faut que nos élus aient le courage politique de prendre des décisions plus difficiles qui bousculent nos habitudes puis notre petit confort individuel, mais qui sont importantes pour l'avenir puis pour l'environnement, puis qui sont des décisions collectives qui doivent être prises de façon urgente.
Isabelle Fontaine, es-tu capable de me nommer des politiciens qui pensent de même en 2018? Il n'y en a pas beaucoup, là, parce que honnêtement, c'est pas payant d'un point de vue électoral. Penser comme ça, là, à court terme, c'est rare que tu es payant. T'sais, je fais un exemple, là, on limite de beaucoup l'étalement urbain, la construction, le déboisement, etc. à Sherbrooke. Qui c'est qui va l'acheter, ton 4000 pieds carrés?
Tout à fait. C'est difficile. Puis, tu sais, les promoteurs aussi, là, ils font de la pression pour offrir aux familles et aux individus ce qu'ils cherchent.
Ben
là,
c'est ça. Ils sont pas fous non plus. Ben oui.
À un moment donné, il va falloir, tu sais, au-delà des déclarations qu'on signe ou du pacte sur la transition, tout ça, reconnaître qu'on a des habitudes à changer individuellement, mais reconnaître aussi que ça nous prend des élus avec du leadership et du courage pour que les décisions collectives aille dans ce sens-là. T'sais. C'est drôle parce que hier, Catherine Dorion, je fais un lien un peu bancal, mais Catherine Dorion justifiait le fait d'avoir une voiture de type VUS, ou en tout cas un peu plus grosse pour sa famille. Puis elle disait exactement ça. Elle disait oui, individuellement, on ne fait pas nécessairement les bons choix, puis il faut reconnaître que ce n'est pas juste des initiatives individuelles que ça va prendre pour changer les choses, mais des initiatives collectives. Puis ces initiatives-là, elles doivent être portées par des leaders politiques
qui ont
courage. Donner
l'exemple. Donner l'exemple. En quelque part.
Puis prendre les décisions collectives qui s'imposent. T'sais.
Ne pas viser ta réélection automatiquement.
Exactement. Quitte à perdre. Mais moi, je pense que le pari peut se faire. Puis je pense qu'on est prêt à en avoir des politiciens comme ça. Puis je pense qu'on est tellement nombreux à se mobiliser pour ce genre de. Pour ces causes-là, à signer le pacte, tout ça. C'est presque comme si on leur demandait, allez, forcez-nous à changer nos comportements.
Force-moi à le faire.
Exactement.
Isabelle Fontaine, merci beaucoup d'avoir été là ce matin.
Merci, à demain.